Thomas Sandeau. La famille. Un jour, elle perd l'équilibre. Elle tente de s'agripper au mur de pierre sèche, mais ses ongles s'échaudent au grain du calcaire. Ses traits se figent dans les gravats d'une existence qu'elle ne comprend plus. Impassible au bord des champs, elle remplit ses poumons des vapeurs de gasoil que les tracteurs dispersent dans un ciel fatalement bleu. Elle se gonfle de mort jusqu'à la nausée. Elle veut se jeter sous les dents des faucheuses mécaniques, s'entourer des suaires tressées de ces graminées qui foisonnent ici, se faire chien-dent pour survivre aux ruminants qui l'encerclent. Elle cueille des trèfles dont elle suce longuement la tige. L'amertume la tient éveillée dans ce cauchemar que le poison juteux rehausse. Dans ses tempes bat la confusion. La lame ne tremble plus. Elle peut appuyer. Elle sent le craquement de l'os, la résistance des chairs. La douleur est presque absente. D'un coup sec, elle traverse la phalange, puis retire le canif qu'elle jette au loin. Hurlant sans voix, elle roule dans l'herbe, tournoie sur les cailloux, macule ses cheveux de terre sombre. Couchée sur le dos, elle regarde les sapins crever le ciel. Son pays, ses enfers. Elle lève sa main déchirée, laisse le sang goûter sur son chemisier. Le soleil finira bien par sécher cet échappement tiède. Enfin, elle se retourne sur le ventre, née contre la caillasse. Elle devra rentrer bientôt, passer à travers la forêt, longer la grande rue du village, retrouver l'odeur du père. La douleur s'impatiente. Elle se relève alors et s'enfonce sans grâce dans le crépuscule de ses 16 ans. Quatre immeubles ternes de 3 étages surplombent le village. Elle habite le 2e, situé légèrement en retrait du chemin goudronné qui mène des habitations à la scierie. Sur le crépi grossièrement peint de sa chambre, une Miss Monde fardée de bleu cobalt fixe un diplôme d'équitation délavé par la lumière, un fan effrayé dans son bocage de gouache, une carte postale écornée. Rien n'a changé ces dernières années. Assise sur son lit, elle feint de ne pas entendre les mouvements impatients du père. Elle voudrait rester seule. Il frappe un coup sec contre la porte. Elle le rejoint dans la cuisinette. Comme chaque jour, elle remplit les assiettes, va chercher les condiments, tranche le pain. Une petite radio à pile, posée sur le dressoir, crachote des considérations géopolitiques. Le père hoche la tête, comme s'il comprenait ce qui se dit. Les pâtes refroidissent, l'appétit manque. Le père pointe son doigt sur la faïence. Elle mâche la masse, déjà solide. De retour dans sa chambre, elle remet en ordre la galerie de peluches, les colifichets alignés sur le petit bureau, souvenir d'un passé immobilisé. Il faut marcher un moment le long de la route communale pour atteindre les 2 usines horlogères qui font vivre les mains propres de la région. 2 ouvrages massifs, perlés d'annexes, avec des fenêtres en mitraille. Deux patrons différents, cousins unis par une haine ravivée chaque fois que possible. Dans la fabrique beige, des boîtiers sont façonnés par de bruyantes presses, dont le martèlement fanatique rythme les alentours. Le père travaille dans l'autre, spécialisé dans la galvanoplastie et les traitements de surface. D'autres opérations y sont pratiquées, dont l'odeur concurrence avec force les senteurs campagnardes. Dans ces contrées, on résiste par le foin ou la micromécanique. On se nourrit de saisons ou de millisecondes. Les jalousies sont aigres et les ouvriers traités de lâches. Le père s'oublie dans sa besogne rigoureuse, mais terne. Dès la mi-journée, ses yeux brûlent atrocement. Il invoque des besoins pressants pour aller se rincer le visage sous l'eau fraîche du lavabo des toilettes. La croûte de sa blessure durcit rapidement. Chaque matin, presque machinalement, elle gratte l'entaille avec ses ongles, puis la suce, comme pour extirper le venin d'une morsure. Un liquide beige goûte avant de se figer entre les lignes de sa main. La douleur apprivoisée, elle ne protège plus la vaste lézarde. Elle s'habille ensuite, un jean rapiécé, un long pull vert pour couvrir ses hanches trop larges. Demain, elle s'achètera de nouveaux vêtements. Comme le serpent qui l'a mordu jusqu'à l'os, elle doit continuer sa mue. Elle a déjà choisi quelle boutique visiter, combien emprunter au père. La matinée avance, elle est en retard. Elle fera du stop pour se rendre au collège. Avec un peu de chance, les voitures passeront devant elle sans la voir, et la notation qui ne manquera pas de souligner sa faute ne sera pas surfaite. Ce jour n'a que l'apparence de l'imprévu. Les enfants jouent sur des tracteurs en plastique devant les fermes, indifférents au va-et-vient téméraire des machines agricoles. Les géraniums dégoulinent aux fenêtres. Les franges des paillassons dissimulent des caillots de boue sèches. Quand on les aborde de face, malgré les silos écaillés et les ternites vieillissant des étables, ces exploitations semblent parfaitement tenues. Les tas de fumier sculptés mieux que des mottes de beurre. Mais le contraste frappe. Entre l'idéal de propreté que traduisent les talus fauchés et la réalité définitivement souillée des lieux. Les territoires sont si scrupuleusement clôturés que les fils barbelés retiennent bovidés et sentiments. Un malaise absolu la saisit lorsqu'elle traverse le bourg. Saluer ces besogneux dont elle ne partage rien, pas même l'espoir d'une météo clémente. Ses baskets blanches, sa parka militaire et son maquillage maladroit renforcent le mépris des indigènes. La campagne n'a de précieux que son image. Autour d'elle, des ombres dansent et s'embrassent. Elle n'aurait pas dû venir à cette fête. Elle devrait savoir que ces jeux ne lui sont pas destinés, qu'il lui manque le savoir-faire nécessaire pour ne pas susciter l'aversion. Elle a pourtant fait l'effort d'un jean et d'un sweatshirt au décolleté échancré à peine moulant. Elle saisit une bouteille de tequila qu'elle renverse généreusement au-dessus d'un verre de jus d'orange. On la frôle, on la bouscule, on l'interpelle. Mais elle ne parvient pas à agripper l'instant présent. Soudain, elle se retrouve dans une salle de bain que la citronnelle embaume. Elle régurgite par à-coup cette maladie d'être soi qui la taraude depuis trop longtemps. Puis, assise sur les bords du bidet, elle s'essuie la bouche et calme son souffle. Quelqu'un frappe à la porte, grommelle, s'impatiente. En vain. Le bus scolaire suit le même itinéraire que le camion des ordures ménagères. Dans le minicar, les plus grands s'ignorent en silence. Certains se fréquentent depuis plus d'une décennie, assez pour se maudire puissamment. Chacun croit tout savoir sur l'autre, mais ils ne forment qu'une famille reconstituée, à laquelle il manque l'essentiel des jours et des passions. Elle pose son sac sur ses genoux et agrafe son regard au décor de conifères. Les secousses du véhicule la maintiennent hors du sommeil. Les conversations d'intendance et les jeux des écoliers primaires ne l'atteignent pas. Enfin, la noble bétaillère se déleste par étapes de son chargement, en commençant par le collège, concrétion de béton placée en bordure du chef-lieu. Partout des groupes se forment, mais elle traverse seule la cour, emprunte seule les couloirs, rejoint une table où une seule chaise l'attend. Le père a perdu l'usage du coude quand il était une liée quelque part dans le sud d'un autre pays. Une attelle providentielle lui a permis de rallier l'usine dressée au milieu de cette région, qui n'en finit pas d'expirer. Il a vécu 3 fois plus longtemps ici que dans sa patrie. Mais il reste et restera l'étranger, l'infirme, le cocu. Il part tôt le matin. Rejoindre les 2 bâtiments, bavant leur lait de néon sur les pâturages endormis. Dès qu'elle entend claquer la porte vitrée de l'immeuble, elle passe aux toilettes, grignote debout, adossée au frigidaire, puis se recouche un moment. Parfois, elle regarde le père se tordre dans l'aube, sa vieille besace à pique-nique suspendue à l'épaule de son bras mort. Il avance, la tête penchée en avant, sans jamais observer autour de lui. Ils ne se connaissent qu'à peine. Elle peut toucher par la fenêtre ce paysage si pur qu'il en est étouffant. Une abondance funeste qu'elle voudrait fuir. Vivre en ville, loin de ces forêts martiales, loin des effluves si forts de l'herbe mouillée. Loin du roulis des épandeurs, loin des églises et de son bourdon teigneux. Elle voudrait se sauver. Mais il lui suffit d'ouvrir ses armoires et de saisir son sac de voyage pour s'avouer vaincue. Elle se contente de s'asseoir sur le muret de la boucherie et décode les plaques minéralogiques des voitures traversant le village comme des égarés. Derrière elle se dresse une muraille de clapiers vides. Seules 2 cages sont habitées par quelques cochons d'Inde trop nourris par les enfants de la crèche. Dans la paille crottée comme suaire, comme pour chacun ici. Tout est joué. Et, n'en déplaise aux rares affiches publicitaires brusquant de leurs couleurs vives la monotonie des granges, les lendemains ne chanteront pas. Sa blessure s'est infectée. 2 fois par semaine, une infirmière itinérante consulte dans une ferme du centre du village. Elle attend son tour, assise sur un banc de bois rugueux dans le couloir d'entrée. Un rideau d'attrape-mouches lourds de cadavres pend du plafond. L'odeur de l'écurie, tellement intense, imprègne déjà ses vêtements. L'itinérante l'appelle enfin. Elle pénètre dans une chambre à coucher, aussi minuscule que sombre. En découvrant sa plaie, l'infirmière fait une moue explicite qui a valeur de diagnostic. Elle lui prescrit quelques remèdes usuels et la raccompagne dans le vestibule. Son regard croise celui de vieille au ventre gonflé, aux dents douloureuses, aux méchancetés vives. Elle cache son avant-bras sans s'en rendre compte. Debout devant le tableau noir, l'enseignant raconte, explique, décrit. Elle a posé sa tête sur sa main valide, se laisse bercer par la mélopée savante. Elle suit des yeux le mouvement de la bouche de cet homme qui possède des outils lui permettant de s'aventurer dans la vie des autres. Une réprimande claque comme un coup de fouet. Elle sursaute, se redresse. Le discours continue, mais peine à l'emporter à nouveau. À force d'être brutalisé, son désir d'apprendre se fragilise. Maintenant, elle fixe la trotteuse de la montre d'un voisin. Elle s'y perd entièrement, tout en gardant ses muscles bandés pour faire face aux semonces qui peuvent la frapper d'un instant à l'autre. Le père a trouvé le paquet de cigarettes. Avec une gestuelle grotesque, il casse chaque tige en plusieurs morceaux, puis déchire le carton coloré. Il envoie les copeaux odorants par la fenêtre de la cuisine. Elle attend la fin du spectacle d'autorité. Le père n'est qu'à peine surpris de sa découverte. La laine est une traîtresse. Mais avoir mis la main sur une preuve tangible lui fait perdre toute retenue. Il se donne des airs de médecin, secoue la tête en regardant les carreaux de faïence du sol. Il est loin de se douter qu'elle a volontairement laissé le paquet en évidence à proximité de ses cahiers d'école. Le résultat dépasse ses espérances. L'embarras du père est pathétique. Il cherche des mots qu'il ne parviendrait de toute manière pas à prononcer. Quand la tourmente et les mains paternelles s'apaisent, elle s'en retourne à ses absences, étrangement comblée. Un médaillon de la mer est posé sur la télévision. Mais il pourrait tout aussi bien représenter une tante éloignée. On n'en parle jamais. Elle en a de moins en moins de souvenirs. Juste quelques pièces d'un puzzle usé, définitivement incomplet. Pas de lettres. Pas de linge marqué d'initiales. Rien dans les cartons entreposés dans la cave. Rien dans la table de nuit du père. Elle fixe parfois le portrait de la mère pour s'y retrouver. Tant de silence les sépare qu'elle n'y voit qu'une absence insensée. La mère est partie un matin d'hiver et elle a grandi seule, à l'ombre d'un étranger. Même le médaillon est une erreur. Les chatons juste nés, les paupières encore collées, ne voient pas la paume qui les cueille et les jette dans un sac de jute. Ils sentent à peine l'envol de leur grossier linceul. Le souffle du vent matinal avant le choc contre le sol bétonné. 10 fois, la poche est projetée à terre, puis plongée dans l'eau glacée d'une fontaine taillée dans le calcaire. Les infimes boules de poils n'ont aucune chance face à l'insouciance de celui qui suit les ordres de l'habitude. Elle s'est arrêtée pour observer le travail mécanique de l'employé de ferme. Il lui sourit. Dès qu'il a tourné le dos, elle s'approche du plan d'eau et trempe ses mains pour frôler les cadavres. Un filet de sang passe entre ses doigts avant d'être emportée dans le trop-plein par le courant. Elle défait la lanière du sac. Il lui semble que de petits yeux la fixent. L'orage lessive tout, écrasant au passage de ses boursouflures toute la gamme des tons verts. Des éclairs et des grondements destructeurs déchiquetent l'horizon. Dans les écuries, les éleveurs hurlent pour couvrir le tonnerre. Des poulains, rassemblés à la hâte dans de longs bâtiments disgracieux, hennissent âprement. Le nez à la fenêtre, elle aperçoit au loin un agriculteur maniant précipitamment son tracteur. Le gros temps continue de faire peur. Chaque année, des laitières valeureuses sont crucifiées par le ciel. Les gens de passage ne prennent pas la mesure de tels drames. Avec le doigt, elle dessine des cœurs de fillettes sur la vitre embuée, puis les efface rageusement. Elle se détourne de la fenêtre et tente la lecture d'un manuel scolaire, espérant y trouver un possible qui se dérobe sans cesse. Les parents d'un lointain cousin ont déserté l'appartement pour laisser la fête d'anniversaire s'épanouir. D'alcool en musique, d'herbes en danse démente, les prévenances se perdent. Deux stripteaseuses débarquent en offrande païenne. L'excitation des convives monte d'un cran. Certains commencent à se déshabiller en hurlant niaisement. Un banqueteur la saisit, la force à se défaire de son pull. D'autres vêtements jonchent déjà le sol en une mosaïque malsaine. Puis il l'enlace et l'entraîne dans une chambre. Il chute sur un lit, bouscule un couple aux passions avancées. Elle sent une main s'insinuer dans son jean. Elle ne cherche pas à se défendre. L'autre découvre le protège-slip, se fige d'un coup et la repousse en l'insultant. La pénombre et les torpeurs couvrent le ressentiment qui lui vient malgré elle. Autrefois, elle allait jouer dans une ferme au centre du village. Elle trempait ses doigts dans le lait tiède, se levait au milieu de la nuit pour suivre les mises bas, s'emparait parfois d'une fourche. L'étable, maintenant déserte, sert d'entrepôt pour un charpentier. Du fourrage dépasse encore des mangeoires. Il faut nourrir l'illusion d'un possible retour en arrière. Personne, d'ailleurs, n'a effacé les noms des génisses tracés à la craie blanche contre le mur. Sur le devant de l'exploitation, de vastes enclos accueillent désormais des poules par centaines. L'ensemble du domaine a été aménagé afin de correspondre aux critères écologiques de production. La fermière a repris un emploi à la poste. Les conjoints se félicitent de ne pas avoir chuté et se moquent bien de ceux qui considèrent qu'un paysan sans vache n'est plus un paysan. Leurs bottes sont restées devant l'entrée, perlées de fientes. Elle ne peut s'empêcher de cracher dedans. Le maître de la classe lui demande de masquer sa plaie, d'envisager un traitement véritable. Ses camarades l'observent avec plus de méfiance encore qu'auparavant. Elle se contente d'un bandage de tulle, mais au moindre effort, la cicatrice devient Vésuve, transpirant sa lave infectée. Elle reste le bras ballant, ignore les coups de massue qui pilent l'entier de son bras gauche. Certains enseignants lui parlent plus souvent. Elle existe enfin. Après les cours, elle prend un bus qui la détourne vers le centre du chef-lieu. Là, elle s'en va traîner dans la seule grande surface, éblouie par le brouhaha publicitaire et les milliers de coloris qui brûlent ses rétines. mais au bout d'un moment, il y a bien plus de sourires ou de bonheurs esquissés qu'elle ne peut en supporter. Elle s'en retourne vers ses haras nauséabonds. Elle est assise sur le siège arrière d'une vieille berline, entre une pesante rousse qu'elle ne connaît pas et la sœur du chauffeur. À l'avant du véhicule, les garçons se lancent des paris, marchandent, s'amusent. Ils penchent quelquefois la tête hors de l'habitacle, hurlent des injures à la nuit. Les vapeurs de marijuana masquent l'odeur de la mécanique surchauffée. Ils se dirigent vers la route qui mène du plateau vers la rivière. Un trajet sinueux, réservé aux machines de chantier, plonge vertigineusement dans les ténèbres. À ce moment-là, le conducteur éteint ses phares, appuie sur l'accélérateur, lâche le volant par fraction de seconde d'abord, puis de plus en plus longuement. Elle connaît ce jeu par ouï dire. La petite sœur a joué l'intermédiaire et lui a promis les attentions de son frère. Mais celui-ci a besoin d'excitation avant d'aimer. La voiture dérape, se redresse par miracle, tressaute. Elle voudrait tellement avoir peur. Plantée au milieu du village, la laiterie lutte contre le trépas, en chahutant tôt le matin et tard le soir. Cœur malade qui s'affaiblit de jour en jour, l'exploitation sonne le glas à coups de spatule contre les boyes vides. Un défilé de tracteurs et de jeeps vient seulement égayer, en vain, la blancheur livide de cet univers lacté. Depuis bien longtemps, il n'y a plus ici ni fabrication de fromage, ni vente d'aliments. Le produit des étables est contrôlé, pesé et consigné avant l'arrivée du camion-citerne en aluminium d'un grand distributeur. En passant devant le bâtiment, elle ne voit que des hommes occupés à laver, récurer, lustrer des carreaux. Des hommes habillés de blanc, dont l'occupation vitale consiste à protéger le royaume des marées régulières de l'Isier. Elle tient un bouquet de pissenlits, dont les fleurs jaunes se sont déjà changées en douces sphères. Elle souffle sur l'amas beige, créant un désordre silencieux. La brise emporte les graines en essaim. Elle se sent comme un fauve, perdant sa crinière d'une simple caresse du vent. Elle est cet équipage, jadis prometteur, qui s'écrase après une lente chute. Assise au bord de la route, elle balance ses pieds dans la rigole qui sert de bas-côté. Dans son dos, voitures et camions vrombissent, freinent, klaxonnent. Il lui suffirait de se coucher pour offrir sa gorge à la patience d'une roue. Son sang se mêlerait aux taches d'huile qui ponctuent le bitume. Avant cela, elle dessine avec les pissenlits chauves les mots qui lui manquent. Une rafale à peine plus forte que les précédentes ramène au caniveau les fragiles lettrines. L'infirmière itinérante grimace en constatant que la cicatrisation de sa blessure tarde. Les semaines passent et les abcès sous-cutanés se multiplient. Elle ment et assure prendre le temps de nettoyer sa plaie. À peine le pansement est-il enlevé que de gros insectes tournoient autour d'elle, prêts à plonger dans l'océan exsudant. L'infirmière agite les mains pour éloigner les bestioles sans mesurer le ridicule de son geste. Les soins durs, constamment interrompus par des villageois pressés de profiter de conseils à bon marché. Enfin, elle peut quitter la ferme, un bandeau trop blanc terminant son avant-bras. Elle évite le centre du hameau et accède aux immeubles en empruntant le chemin forestier, ce qui l'oblige à traverser un vaste élevage de poulains. Elle entend les invitations graveleuses que lui lancent les palefreniers de passage. Un jour, il lui faudra apprendre à faire face. Le père croit taire sa pauvreté en tenant son logement excessivement propre. Autour d'eux, les exploitations fermières croupissent dans leur fange provinciale, mais aucune n'avoue sa ruine. Il y a invariablement une machine agricole rutilante, un pan de toit rafraîchi, une génisse aux pieds encore fermes. La frugalité du père n'a aucune excuse. Il garde une part de son revenu dans les dictionnaires et sous les piles de son linge de corps. Elle a toujours connu ses cachettes, où elle prélève son salaire d'adolescente. Le père semble n'avoir jamais rien remarqué. En un seul après-midi, au chef-lieu, elle gaspille ce gain sans labeur, en inutilité et fugacité. Elle y prend un plaisir retenu et se déleste de ses biens dans les poubelles municipales. Elle ne peut rien rapporter. Elle ne veut pas s'encombrer. Elle ne saurait d'ailleurs que garder. Elle ne parvient même pas à s'attacher aux objets. Il rêve de champs de betteraves, d'orge, de colza. Ils envient ceux de la plaine qui peuvent se convertir au tournesol, rentables jusqu'à la prochaine tourmente. Ils savent que le village est relié à la société des vivants grâce aux deux monstres industriels plantés dans le vallon, à leurs machines à contraindre le temps, à ces semi-remorques qui viennent régulièrement charger leur tonnage de microtechniques. Deux mondes se côtoient, se tolèrent, mais ne peuvent se comprendre. Au plus jeune, échoua la tâche, vaine, de tisser le maillage d'une communauté qui doit trouver ses ressources en elle-même. Personne dans la capitale ne peut situer exactement cette enclave qui ne parvient même plus à émerveiller les écolos en mal de sensation. Alors, les paysans se protègent des vents extérieurs, en balisant une frontière avec les arômes acidulés de leurs miséreuses écuries. Plus ils sont laids, mieux ils prennent soin de leur bétail. Les mouches s'agitent. L'orage approche. En quelques minutes, une éclipse de jour prend le paysage dans sa cosse moite. Les premières gouttes sont bientôt rattrapées par une masse indolente qui impose sa loi. La foudre claque bientôt. Dans les habitations, les ampoules tressaillent. Elle se blottit sous l'auvent de l'église. Au bout d'un moment, elle choisit de braver le spectacle des eaux et traverse le village, les bras écartés, le visage relevé vers un ciel ébène. Une femme exsangue observe de la fenêtre basse de sa cuisine les grêlons laminer son potager. En passant près d'une étable, elle entend les appels guttureux de quelques veaux. Ils n'ont jamais vu la lumière, n'ont jamais pu manger suivant leur instinct. Leur viande doit rester parfaitement blanche. Seule la violence des trombes la retient d'ouvrir la porte boisée, de délivrer ses jeunes bêtes. Elle sait qu'un seul éclair suffirait à leur brûler les rétines. La liberté n'est jamais simple. Le bal des foins bat son plein. Sous la grande tente dressée au centre du village, se presse tout ce que la région compte de paysans, d'ouvriers et d'épouses alourdies, juchés sur un empilement de palettes, trois musiciens mal sonorisés balancent une musette criarde. La foule ondoie, heureuse dans sa bière bon marché. Elle va et vient dans la masse, cherchant quelqu'un à qui adresser un salut. La plupart des visages lui paraissent familiers, mais indifférents. Au fond de la cantine, la première bagarre éclate entre deux gamins ivres de la même boutonneuse. Elle s'achète une boisson et une saucisse de Vienne, puis prend place à une des immenses tables qui lézardent l'espace. Elle est si tendue qu'elle brise son gobelet de plastique, propulsant le liquide autour d'elle. Elle se recroqueville, ferme les yeux, attend les coups. Elle pense qu'une jupe doit se porter haut sur les cuisses. Celle qu'elle achète laisse apparaître nettement plus de chair que ce que la mode autorise. La vendeuse elle-même émet un doute poli. Elle s'en amuse et se réjouit par avance des regards qui se tourneront vers elle. À peine dans la ruelle, elle se sent enveloppée d'un sentiment de grâce qu'elle n'a pas connu depuis longtemps. La bise lèche ses jambes. Elle frissonne comme si des vagues glacées s'échouaient sur sa peau. Elle ne sera plus la pauvre fille dont les villageois soupirent le nom. En quête d'ultime confirmation, elle se mire dans les vitrines. Elle croit même entendre des sifflets admiratifs. Quand elle revient à l'appartement, le père est déjà à table. Son visage se fige en un rictus passant de la haine au dégoût. Elle va se changer, mais se jure de ne pas fléchir. Plus tard, elle s'endort, la tête posée sur la mince pièce de tissu. Quand il revient de l'usine, le couvert est mis. Il s'en étonne, d'un froncement de sourcils. Elle a préparé ce jambon en sauce qu'il apprécie tant. Ils mangent en silence, et ce n'est qu'au dessert qu'il allume la petite radio. Elle ne pouvait espérer mieux. En passant dans le salon, son regard est attiré par un reflet de lune sur le médaillon dressé sur le téléviseur. Elle voudrait tourner l'objet, mais se retient. À la cuisine, le père commence à cirer ses chaussures, posé à même la nappe entre les assiettes sales. Un geste méthodique, dont le chuintement parvient à recouvrir les fadaises radiodiffusées. Elle s'installe dans sa chambre, feuillette un magazine publicitaire oublié près des boîtes aux lettres. Elle devine les parfums, effleure les soies, embrasse les lèvres ocrées. Elle se prend à désirer un verre de lait. Le père est toujours occupé à l'autre bout de l'appartement, attendant comme elle la débandade du jour. Ils se regardent brièvement. Elle voudrait savoir aimer. À force d'observer les mouvements tourmentés des villageois, elle redoute de devenir à son tour une fourmi champêtre, une grande gentiane desséchée. Les tracteurs hérissés de fourches brillantes bâtissent des montagnes de balles de foin recouvertes de plastique blanc. Ces étrons géants sabotent le paysage, mais nécessité fait loi. Les dieux sont alimentaires, et nul ne peut résister à la frénésie des moissons, des récoltes et des regains. Elle a lu l'affichette dans le préau. Elle se rend en vélo au bord de la rivière, là où la fête a lieu. Plusieurs feux brillent dans la pénombre. Des groupes se forment et se dénouent. La bière coule à flot en écho au flux de l'eau vive. Deux guitaristes se font concurrence en enchaînant, à quelques mètres de distance, les mêmes rengaines simplistes. Elle connaît quelques filles du collège et espère se faire allier. Elle est assise sur un tronc couché au sol, lorsqu'ils l'abordent. Ils ne se disent rien d'important, trop méfiants d'eux-mêmes. Puis la fête les reprend et les éloigne. Ils se retrouvent plus tard, par hasard, à proximité d'un taillis aménagé en latrine. Il lui sourit brièvement et lui parle de mécanique automobile. Il peine à trouver les mots d'une langue qu'il apprivoise depuis peu. Il remarque sa blessure, s'en inquiète, lui promet des jours meilleurs. Elle l'écoute par paresse. La puanteur banale des étables s'ingénie à contrer peu à peu les clameurs des deux usines horlogères agonisantes. Plusieurs ateliers sont presque vides depuis une trentaine d'années. La crise a laissé des cicatrices, ici comme dans toute la région. Seuls se pavanent les jeunes designers, importés de la capitale pour concevoir de grotesques cadres en fantaisie. Pour les autres, rien ne changera plus. La menace pèse constamment sur la profession, et chacun sait que les fabriques doivent leur survie à la fortune personnelle des patrons. Les ouvriers ont l'esprit du sacrifice. Ils ne se plaignent jamais. Ils savent que la débâcle est générale et que ceux qui se convertissent à l'élevage de volailles ou au tourisme équestre ne s'y résolvent que lorsque les huissiers ont égorgé leur dernier porc. Ses absences et son attitude en classe ne sont plus tolérées. Le directeur la convoque pour une ultime séance de concertation dans son vaste bureau, habillé de dossiers et de photographies d'enfants souriants. Il semble fatigué de son rôle, ne cherche même plus à la convaincre. Vu son âge et le nombre d'années déjà passées dans l'enseignement obligatoire, le prochain faux pas lui vaudra d'être éliminé du circuit. Le directeur pèse ses alarmes, agite son stylo plaqué or, cligne des yeux. Il doit faire face à d'autres soucis, plus importants, plus vivants. Elle n'est qu'un astérisque au crayon rouge dans un agenda saturé. Elle retourne dans sa classe, mais ne parvient pas à reprendre le fil des apprentissages. Sa main est tellement enflée qu'elle peine à remuer les doigts. Un médecin la reçoit dans son cabinet du chef-lieu. Il parle plus qu'il n'observe, comme troublé par sa présence, son jean crotté, ses cheveux feutrés. Finalement, il lui prescrit un onguent et un choix de pastilles qu'il prend dans un tiroir gorgé d'échantillons. À peine sortie, elle jette la pommade et les pochettes au slogan offensif dans le caniveau. Elle cède de ses baskets pour faire disparaître cette médecine dans les canalisations. Le soir, elle prétend d'abord n'avoir rien obtenu du docteur. Le père sait qu'elle ment. Elle va alors chercher dans sa chambre des grains de chocolat en couleur qu'elle avale bruyamment. Dans la nuit, la douleur l'éprône à plusieurs reprises. Elle se contente de plonger sa main dans le lavabo rempli d'eau froide. Les maux du sang ne sont rien comparés au déclin de ses rêves. Il l'emmène au cinéma du chef-lieu. La jeunesse locale se retrouve dans la pénombre touffue pour consommer des œuvres dont ils savent déjà tout. Les films arrivent en effet de longs mois après leur sortie dans la capitale, parfois même après leur diffusion sur le câble. Ici, pas de pop-corn, de glace ou d'entracte festif. Le projectionniste est pressé de rentrer chez lui. Les sièges grincent et les dos souffrent. Il voudrait l'embrasser, mais elle se détourne. Il cherche sa main, frôle ses cuisses, s'y arrête maladroitement. Il s'est arrosé de déodorant, mais son haleine empeste le chewing-gum trop longtemps mâché. Ses doigts faussement égarés deviennent insistants. Elle se laisse faire, parce que c'est plus simple. Tout à l'heure, il la ramènera au village, lui évitant d'attendre le bus. Elle voudrait que le film ne termine jamais. Elle pose son cadeau, un paquet de cigarillos, au milieu de la table. Il essaie de sourire, puis se perd à nouveau dans les yeux de son potage. Elle reste là quelques instants, droite devant le vaisselier emboîté dans le mur, puis s'en va dans sa chambre. Peu après, le père cogne à sa porte. Il veut savoir si elle a payé les tiges de tabac. Elle acquiesce. Il soupire, soulagé. Les vacances approchent et la tension augmente peu à peu. La pause estivale est un calvaire. Sans l'usine et ses tyrannies quotidiennes, le père est encore plus perdu. Un camarade d'enfance est inhumé dans le cimetière communal qui jouxte la route principale. Écrasé par le tracteur familial. Il aura eu le temps de parler avec la mort avant que la masse, lente à se retourner, le broie. Elle observe les villageois blêmes, le cercueil coûteux couvert de bouquets aux couleurs criardes, le trou hâtivement creusé dans le sol détrempé. Le pasteur ne fait même pas l'effort d'imaginer des paroles de réconfort. On cherche du regard la mère, on exagère son courage. Des semi-remorques chargées de troncs passent bruyamment non loin d'eux. Elle pense à la collation qui sera servie au bar à café, se demande comment tous ces tristes s'entasseront pour se réchauffer et oublier, déjà. Le père est là aussi. Il se tourne vers elle. Ce mouvement la trouble, et elle s'échappe prestement en se noyant dans l'assemblée. Réveillée par une brûlure intense et continue, elle prend deux cachets, découverts dans une trousse de secours. Sa main a dû être plaquée contre la paroi. Elle est déjà épuisée malgré l'heure matinale. Elle refait son bandage avant de se préparer un sirop qu'elle boit dans le canapé. Dans l'obscurité, elle fait ensuite quelques pas dans cet appartement parfaitement propre et fonctionnel. Les murs sont désespérément nus. La bibliothèque est décharnée. Il n'y a plus trace de la mère. Même les jouets qui rappelaient le passé ont été débarrassés. Elle est le dernier témoin. Le souvenir de trop. Voilà qu'elle commence à ressembler au père, avec cet avant-bras inutile et boursouflé. D'un seul coup, sa blessure n'est plus l'amie intime, mais une rivale retorse. Une larve qui s'infiltre dans son corps pour l'habiter dans son entier. Elle regarde sa main, puis saisit une paire de ciseaux et défait lentement son bandage. La paume sur le formica, elle gratte la croûte noirâtre du sang. Un reflux de pus jaillit et ruisselle entre ses doigts. Elle s'empare d'une bouteille de vinaigre et en verse une rasade sur l'entaille. Ses jambes faillissent. Au loin, un camion klaxonne longuement. La douleur lui donne l'envie d'uriner. Alors, elle se précipite aux toilettes. Dans la glace de l'armoire murale, elle aperçoit une fille de rien, en larmes, qui ne sait même plus avoir mal. Le médecin observe la plaie infectée avec méfiance, tâtant l'abcès du bout d'un coton-tige. Il veut bien inciser la masse purulente, mais le reste semble dépasser ses compétences. Depuis quelques jours, elle ne dort plus, prise à son propre piège. Le praticien compulse un annuaire, note un numéro de téléphone sur une ordonnance pré-signée. Elle promet de le tenir au courant. Dehors, il pleut de rue. Elle marche lentement, ses savates s'alourdissant à chaque pas. Elle est complètement détrempée, à tel point que le grenat de son maillot se répand sur son jean. Des voitures l'aspergent sans égard, soulignant par le geste sa présence incongrue au milieu de l'orage. Un éleveur du village s'arrête à sa hauteur et l'invite à monter dans sa camionnette. Ils voyagent en silence, sauf lorsqu'il passe près d'un renard éventré. À l'arrivée, elle oublie de le remercier. La clinique est glaciale, blanche et silencieuse. La réceptionniste la dévisage sans dissimuler une certaine aversion. Elle reste deux longues heures dans une petite salle d'attente dépouillée. Enfin, une équipe chirurgicale la prend en charge. Elle subit une anesthésie spécifique qui lui permet de suivre le travail des médecins. Elle sent parfaitement les lames circonscrire la tumescence de sa main, des racloirs libérer les chairs de leurs sédiments, des aiguilles s'enfoncer profondément entre l'ossature. Elle comprend que sa main sera marquée à jamais, qu'elle ne pourra plus l'utiliser comme avant. L'envie de vomir la saisit à plusieurs reprises. Plus tard, on l'emmène dans une salle de repos, d'où elle aperçoit les sapinières grimper vers l'azur. Il a promis de venir la chercher avant la fin du jour. Par la fenêtre de sa chambre, elle l'aperçoit, appuyée contre un cabriolet d'occasion, garé au bas du sentier goudronné qui monte vers les immeubles. Elle le fait attendre. Elle s'assied sur son lit, observe ses ongles peints à la va-vite, se mouche, retourne à la vitre. Il est toujours là, à peine impatient. Il fume en se donnant des airs conquérants, souffle vers le sien des cumulonimbus. Elle vérifie le contenu des poches de sa veste, compte ses mentoles avant de quitter le logement en claquant volontairement la porte. Elle devine l'agacement du père. Elle prend son temps pour descendre les deux étages, laisse ses doigts glisser le long des boîtes aux lettres, corrige sans réfléchir la position du paillasson. Cette fois, elle doit y aller. Elle réprime un frisson et se met à courir vers lui. Les jours où les citadins se mettent au vert en troupeau, les paysans se réfugient dans la paille humide et noire de leurs étables. Il y a toujours à faire et les jours se suivent pour mieux se ressembler. Le père aussi se lève chaque matin à la même heure, avec la même démarche et le même casse-croûte que les jours d'usine. Il s'en va gratter la terre de son potager avare. Celui-ci se trouve dans un pan de forêt à l'emplacement d'une ancienne décharge communale. On ne voit nulle trace du passé, les bulldozers ayant redonné au terrain un aspect ingénu. Moyennant une location symbolique, le père a repris le cabanon du surveillant. Quelques légumes, une seule chaise de jardin, un vieux parasol publicitaire. Le père restera toute la journée dans ce lieu tellement quelconque qu'il n'en est même pas sinistre. Rien d'autre qu'une accumulation de petites misères et de fleurs sauvages. Elle ne s'y rend plus depuis longtemps. Trop de week-ends de son enfance à attendre que le soleil ou le vent fatigue le père. Trop de gestes superflus pour lutter contre la vermine et la solitude. Il prétend devoir chercher une vidéo dans le studio d'un ami. Le cabriolet traverse plusieurs agglomérations avant de gagner un faubourg garni de villas mitoyennes, aux formes convenues. La garçonnière, dans les combles d'une habitation récente, est une réplique ratée de catalogue de meubles suédois. De la fenêtre basse, elle aperçoit les rails du chemin de fer à voie étroite, césarienne d'un monde qui n'enfante plus. Il fait mine de fouiller, remue quelques coussins en grognant, s'approche d'elle et l'enlace fermement. Les mèches de son front se collent sous l'effet d'une sueur inquiète. Elle se dégage plusieurs fois et trouve benoîtement refuge dans un fauteuil. Il la rejoint après s'être débarrassé de sa camisole. Puis, un assaut vaniteux décapite leur amour. Tout se passe très vite, sans avenir. Il faut bien qu'il y ait une première fois. Le père maugré dans la kitchenette lance bruyamment l'ouvre-boîte sur la table. L'eau coule déjà dans la douche, mais elle attend, assise sur les toilettes. Le père n'osera pas entrer. Elle n'a pas préparé le repas, n'a même pas mis le couvert. En pénétrant dans l'appartement, elle a senti une force lui écraser la glotte. Une révolte impossible à assumer, impossible à justifier. Elle se glisse, tout habillée sous la douche, sans robe de sa vapeur, version chaude de ce brouillard mortifère qui s'en vient régulièrement lécher les collines environnantes. Ses vêtements se gonflent d'eau. Elle ôte un à un les éléments de son lourd blindage, les laisse tomber dans le réceptacle d'aluminium. Une fois nue, elle se recroqueville dans l'amas de tissu. L'eau l'accable de ses effluves fluorés avant de l'abandonner aussi. Elle enfile sous son pull deux disques. Puis elle s'y flotte, soupèse des paquets de cassettes vidéo, se surprend même à écouter au casque mural quelques mesures d'une nouveauté. Ses jambes paniquent, mais elle est sur le point de réussir. Soudain, une main agrippe son épaule. Elle s'effondre malgré elle, se fait relever vigoureusement. L'agent de sécurité l'emmène dans un bureau improvisé en salle de fouille. Il est rejoint par un homme qui se fait passer pour un représentant des forces de l'ordre. Après une discussion insensée, elle est ramenée au village dans une voiture banalisée. Claque murée dans sa chambre, elle entend le vigile désapprouver l'attitude du père. Ils ne parviennent pas à dialoguer, se contentent d'échanger des principes que tous deux peinent à formuler clairement. Le père fatigue et concède quelques serments éducatifs. Enfin, l'agent s'en va dans la fraîcheur du soir. Retrouver son foyer sage et aimant. Le père reste quelques instants debout dans le corridor, avant de s'écraser dans le canapé du salon. Il demande qui est la femme du médaillon. Elle ne répond pas. Il s'étonne que l'on puisse sourire aussi tristement. Il vient souvent en fin de journée, chargé de soucis ramenés de l'atelier. Ses mains sont maculées d'un cambouis tenace. Il parle sans discontinuer, mélange les langues, cherche son assentiment. Elle regarde l'horloge murale, ostensiblement. Mais il ne veut pas comprendre. Au bout d'un moment, il l'embrasse à pleine bouche. Comme elle résiste, il essaie des mots tendres de magazine. Il s'en va avant le retour du père. À peine a-t-il quitté l'appartement, qu'elle se lave longuement les joues, la bouche, vide. Son village sent la mort. Bientôt, l'entier de ce village infirme, avec ses élevages chevalins déraisonnables et son industrie horlogère d'un autre temps, sera oublié de tous. Les vieux et les inutiles résistent, s'asseyent en troupeau sur les bancs de parvis pour commenter les travaux de leurs fils ou beaux-fils. Parfois, elles s'offrent un détour et passent devant ce tribunal ridé sans le saluer. Elle sait parfaitement qu'ici, rien n'est pardonné. Elle pense à leur disparition prochaine et s'en réjouit. Il s'est frotté la peau d'un parfum au musc acheté dans l'urgence. Elle fait tout ce qu'elle peut pour retarder son projet. Ils sont enclavés dans le canapé du salon. Il lui raconte sa matinée, évoque sa patrie, maudit la guerre. Il veut la serrer contre lui. Il commence à la déshabiller, puis ôte son maillot et son pantalon. Elle refuse de le faire là. Ils se rendent dans sa chambre. Il ne rit plus. Elle sait qu'il est inutile de résister. Alors elle ferme les rideaux et se dénude complètement. Il est toujours aussi maladroit. Croit qu'ils doivent agir. Vagit. Il lui mord le bout des seins si fort qu'elle pousse un cri. Cela ne l'arrête pas. Il s'empêtre dans ses émotions, halète, geint, se tord. Une poupée chute sur le tapis, les yeux révulsés.